les violences conjugales à l'épreuve du confinement sur Radio Agora.
Bonjour, bienvenue sur Radio Agora pour ce troisième numéro de notre série « Les violences conjugales à l'épreuve du confinement ». Le titre de cette dernière émission est demain « Les bonnes pratiques à développer, soutenir, encourager ». Je vous propose donc de tirer un bilan des actions mises en place ou pas au printemps dernier, des initiatives et des dispositifs à développer ou à renforcer afin que la lutte contre les violences faites aux femmes soit enfin à la hauteur des enjeux. Pour en parler, je reçois Lily Andreu du collectif Nous Toutes 92, Lorraine Janton, adjointe au maire de Nanterre en charge des droits des femmes et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, Anne-Charlotte Gelty, directrice du CIDFF 92, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Miassam Essaoudi, écrivaine et militante féministe franco-algérienne, et enfin au téléphone, Patricia Cerizet, présidente du comité Femmes solidaires de Nanterre, ainsi que Aurélie Latouresse, chargée d'études à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes au centre Hubertine Auclert. On commence avec vous, Aurélie Latouresse. La crise sanitaire a révélé, on l'a vu, de forts besoins structurels en matière de protection des femmes et en particulier de leur mise en sécurité. Est-ce qu'on est vraiment loin du compte du côté du nombre de places d'hébergement en urgence ?
Oui, en effet, la crise a révélé les manques qui existaient déjà avant. Là, la situation des femmes qui étaient exposées aux violences en continu de la part de leur agresseur dans le cadre du confinement a rendu d'autant plus important et urgent le fait qu'elles puissent accéder à des mises en sécurité. Et là, on s'est rendu compte à nouveau que le compte, effectivement, n'y est pas sur les places spécialisées. Alors, c'est important de rappeler qu'en fait, pour que les femmes victimes de violences puissent être mises à l'abri de façon sécurisée, elles ont besoin effectivement d'un toit, mais elles ont aussi besoin d'être accompagnées et d'être dans des espaces non mixtes. C'est pour ça qu'on parle de places spécialisées. Et c'est ce nombre de places spécialisées dans lesquelles elles peuvent souffler, ne serait-ce que ça, elles et leurs enfants, si elles en ont, et de pouvoir être accompagnée d'un point de vue juridique, social, pour sortir des violences. C'est ça dont on a besoin et là, le nombre de places est très largement insuffisant et la crise l'a particulièrement révélé.
On a combien de places à peu près actuellement et combien il en faudrait ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ?
Alors, c'est très difficile de quantifier le nombre de places qu'il existe parce que justement, le décompte prend souvent en compte des places qui ne sont pas spécialisées, auxquelles les femmes de fait se retrouvent, mais vont peut-être pas rester d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas dans des espaces sécurisés dont la localisation va prendre en compte l'éloignement de leur partenaire violent, par exemple. Mais on a pu comptabiliser le nombre de places dont il y aurait besoin. Les associations évaluent qu'environ 17% des femmes victimes de violences conjugales auraient besoin d'un hébergement. Si on le rapporte au nombre de femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année d'après les enquêtes de victimation, on arrive en fait à 38 000 places qui seraient nécessaires, des places spécialisées, et on est là très très loin du compte en France.
Vous avez dit tout à l'heure, Aurélie, qu'il fallait que ça soit des places qui soient accompagnées. Qu'est-ce que ça signifie, ces places accompagnées ?
C'est-à-dire que derrière ces places d'hébergement, il y ait des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux qui sont formés à l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales pour pouvoir justement les aider à sortir en fait du cycle des violences. Et ça nécessite une formation particulière. Et cet accompagnement-là, il a un coût aussi. Et c'est important de prendre en compte aussi le fait que ces femmes ont besoin d'être mises en sécurité, mais surtout de construire, de reconstruire leur chemin de sortie des violences. Et ça, ça a un coût aussi, en fait.
Et si ces femmes ne sont pas accompagnées, qu'est-ce qu'on risque ?
Ce qui risque, en fait, c'est que les femmes soient, par exemple, mises à l'abri dans des hôtels, ce qui arrive le plus souvent, sans accompagnement. Ces hôtels peuvent se trouver très loin de leur lieu de vie, des lieux des réseaux familiaux, amicaux qu'elles ont pu tisser, parfois très loin aussi des écoles des enfants. Seule, sans autre alternative en fait pour construire l'avenir, la réalité c'est qu'elles se disent que finalement il vaut mieux revenir au domicile plutôt que de rester dans ces espaces-là inadaptés, aussi parce que l'accompagnement social, juridique n'aura pas été enclenché pour leur proposer une protection de plus longue durée.
Anne-Charlotte Dielty.
Oui, je voulais compléter ce que disait Aurélie, c'est-à-dire qu'il s'agit bien évidemment en priorité de les mettre à l'abri et qu'elles aient un toit sur la tête pour elles et leurs enfants, mais il y a tout un travail d'accompagnement derrière qui est indispensable, d'accompagnement juridique sur l'ouverture des droits, sur, je ne sais pas, des conseils sur la séparation, le divorce, sur le renouvellement du titre de séjour, sur une ordonnance de protection, sur comment on remplit un dossier d'aide juridictionnelle, comment on fait lien avec l'avocat, sur l'ouverture des droits sociaux aussi, avec des travailleurs ou travailleuses sociales, qui vont faire les ouvertures de droits sociaux, mais aussi l'accompagnement vers un hébergement plus pérenne, vers l'emploi. Enfin, voilà, c'est sur tous les champs qu'il faut travailler. Un accompagnement psy. Ce sont des femmes qui sont souvent polytraumatisées, qui ont vécu des violences extrêmement graves, elles et leurs enfants. Donc, il y a aussi besoin d'un accompagnement psy. Donc, voilà, on voit bien que ça nécessite quand même un certain nombre de professionnels et de compétences. Il ne s'agit pas juste, même si c'est, je ne dis pas juste, c'est indispensable, hein, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, on a le risque qu'elles retournent effectivement au domicile du compagnon violent parce que toute seule, il est extrêmement compliqué qu'elles puissent surmonter l'ensemble de ces obstacles.
Oui, la mise à l'abri, c'est vraiment le tout premier pas et derrière, il y en a beaucoup d'autres. Patricia Cerizet ?
Je voulais simplement souligner par rapport aux besoins de 38 000 places que le Grenelle sur les violences conjugales a proposé 1000 places supplémentaires.
On est loin du compte, donc.
Voilà.
Alors, parlons budget, justement, Aurélie Latouresse. On annonce 360 millions d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes en 2020. Et apparemment, on est donc très loin du compte si on devait vraiment suivre l'exemple de l'Espagne, qui est apparemment un très bon exemple, un modèle.
Oui, en effet, on vient de réaliser un rapport pour comparer la politique espagnole, qui est souvent citée en exemple, la politique espagnole de lutte contre les violences conjugales avec celle en France. Et on a cherché à comparer aussi comment cette politique était soutenue financièrement de façon très concrète. Et alors, en Espagne, il faut savoir qu'il y a eu un pacte d'État contre les violences conjugales qui a été voté en 2017, avec un budget d'1 milliard d'euros prévu pour 5 ans, qui s'ajoutait au budget qui était déjà existant. Ça fait déjà un peu rêver. Si on se rapporte à l'année en cours, hein, 2020, en Espagne a été voté 780 millions d'euros pour la lutte contre les violences conjugales, contre donc 360 millions qui sont en cours de vote en France. Et on a fait le calcul, ça représente 16 euros investis par habitant en Espagne pour la lutte contre les violences conjugales, contre 5 euros en France par habitant, par habitante. Donc on voit qu'on est vraiment dans une proportion très différente d'engagement d'un pays à l'autre.
Et on est d'accord que cet investissement en Espagne a permis d'améliorer très nettement le sort des femmes qui étaient victimes de violences.
Oui, il y a plusieurs indicateurs qui permettent de confirmer l'impact aussi de cet engagement budgétaire. Un seul indicateur, pour résumer, c'est le taux de féminicide qui est 2 fois moins élevé en Espagne qu'en France et qui diminue.
Oui, c'est vraiment un bon indicateur d'amélioration. Qu'est-ce qui vous semble primordial aujourd'hui à vous, Anne-Charlotte Gelty, pour améliorer la lutte contre les violences, à part ce dont on a déjà parlé, les hébergements d'urgence ?
Alors, ça fait longtemps hein, que les associations ont fait la liste des besoins. C'est pas révolutionnaire ce que je vais dire. La première chose, je pense, c'est la formation des professionnels au repérage et à l'orientation des femmes victimes de violences, et en priorité la formation des policiers et gendarmes à l'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats. Ça me paraît être une des mesures prioritaires, mais également la formation des magistrats pour qu'on ait aussi des décisions de justice un petit peu plus adaptées par rapport à la situation. Ce qu'on disait dans l'émission précédente, hein, c'est que on a des textes de loi qui sont assez bien faits, et on a eu plusieurs lois récemment qui sont venues rappeler, renforcer l'ensemble des dispositifs législatifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans la réalité, si elles ne sont pas reconnues comme telles et si ces dispositifs ne sont pas exploités, ça rend inopérant tout ça. Par exemple, ce qu'on se disait, l'éloignement du conjoint violent, c'est une mesure qui peut être prise dès la plainte dans le cadre d'un contrôle judiciaire, mais également dans le cadre d'une condamnation, donc dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, on peut avoir des mesures d'éloignement du conjoint violent qui permettent des mises à l'abri des, et de la protection des victimes. Les ordonnances de protection, c'était un dispositif qui était prévu pour les situations d'urgence, répondre rapidement justement à ça. On a des délais qui sont de plus d'un mois et demi dans les Hauts-de-Seine et on a très peu d'ordonnances de protection qui sont rendues, notamment si on compare là encore avec l'Espagne, qui a su développer et utiliser ce dispositif, en matière de droit de visite et d'hébergement. Alors, il ne s'agit pas de couper tous les liens des enfants avec leur père, mais quand il y a des violences, on peut quand même questionner est-ce qu'un auteur, est-ce qu'un mari violent est un bon père. Je crois que ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Édouard Durand et un certain nombre de professionnels ont montré que bah non, alors peut-être qu'il faut qu'il ait du soin, peut-être qu'il faut qu'il travaille cette responsabilisation, cette question-là de la violence qu'il a fait subir dans son foyer à sa femme et à ses enfants. Mais en attendant, il faut protéger les enfants, donc il peut y avoir des droits de visite médiatisés. Ce qui sous-entend qu'il y a des structures qui seraient financées pour accueillir. Donc, pour expliquer rapidement, la femme vient déposer les enfants dans une structure dédiée et elle ne croise pas son ex-compagnon qui vient dans cet espace dans lequel il y a des éducateurs, il y a des professionnels formés, rencontrer, avoir un lien avec ses propres enfants. Dans le 93, qui est un des départements en France les plus à la pointe en matière d'innovation dans le domaine, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les mesures d'accompagnement protégées, où là encore, il y a des professionnels qui vont faire le trajet, qui vont amener les enfants chez le père pour les droits de visite et d'hébergement et les ramener chez la mère. Ça permet aux deux parents de ne pas se croiser et qu'il n'y ait pas de violence, puisqu'on sait que les violences, elles peuvent continuer à s'exercer au-delà de la séparation. Hein. Malheureusement, ça ne protège pas de cette violence. Et qui peuvent aussi faire le lien avec les enfants, faire un état des lieux de ce qui se serait passé. On sait que les enfants sont aussi utilisés dans le cadre de ces droits de visite et d'hébergement par les pères pour continuer à exercer une pression et des violences sur la mère en posant des questions, instrumentalisant les enfants. Évidemment, il faut plus de moyens aux associations. Vous l'avez dit pour celles qui proposent de l'hébergement, mais pour l'ensemble des associations qui accompagnent au quotidien les femmes, que ce soit pour des consultations psychologiques, des groupes de parole, pour les enfants. Il faut absolument qu'on ait beaucoup plus d'espaces dédiés avec des professionnels formés pour prendre en charge les enfants. Mais également au niveau juridique. Donc nous, le CIDFF, on tient des permanences juridiques donc dans toute la France. Hein, c'est un réseau national, les CIDFF, mais on n'est pas en capacité de répondre à l'ensemble de la demande. On est à saturation, ce sont des entretiens qui sont longs, qui sont compliqués, qui nécessitent un travail derrière d'accompagnement, de faire le lien avec les différents commissariats, avec les avocats, avec un certain nombre de professionnels qui sont engagés autour de ces femmes victimes de violences. Ce qu'on demandait aussi dans les Hauts-de-Seine, pour revenir chez nous, c'est la création d'un observatoire. Je le disais, si le 93 est à la pointe sur ces questions-là, c'est aussi parce qu'ils ont un équipement, ils ont un observatoire avec du coup qui a des moyens et qui porte une volonté politique de coordonner et de mettre en œuvre des politiques publiques, comme le disait Lorraine sur l'émission précédente. C'est indispensable qu'on ait un vrai portage politique de ces questions-là avec des moyens. Et donc, on n'a pas ça dans les Hauts-de-Seine. On est quand même un département qui est extrêmement peuplé. On a beaucoup de femmes victimes de violences. Je crois qu'il y a des moyens dans ce département aussi. C'est un département assez riche. Donc, ce serait bien qu'on ait aussi des politiques publiques à la hauteur de ça.
Patricia Cerizet, je crois que c'est une des questions qui vous intéresse aussi et que vous réclamez. C'est la création de l'Observatoire régional, départemental, pardon, un observatoire départemental des violences faites aux femmes.
Effectivement, on revendique inlassablement, à l'image de la Seine-Saint-Denis, comme le dit Anne-Charlotte, la mise en place d'un tel observatoire qui permettrait une synergie entre les différents partenaires, hein, la justice, la police, l'habitat. Je voulais ajouter aussi que pour nous, la question que nous nous posons par rapport aux violences, c'est comment empêcher ces violences, parce qu'on sait qu'elles n'arrivent pas comme ça. Elles s'inscrivent dans un continuum. Les violences faites aux femmes, elles se nourrissent des inégalités de genre, du sexisme, de notre société patriarcale. Et pour progresser sur ces questions, je crois qu'il faut avancer sur la prévention et la lutte contre les stéréotypes sexistes et faire évoluer les mentalités dès le plus jeune âge.
Alors comment on peut faire ?
Voilà, à Femmes Solidaires, nous militons pour une éducation non sexiste et non violente. Et outre les actions de lutte pour l'égalité, contre les discriminations, Femmes Solidaires mène des actions depuis plus de 10 ans, des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur le respect entre les filles et les garçons, la déconstruction des violences sexistes, le cybersexisme, etc. Enfin, beaucoup de thèmes sont abordés. Et pour nous, éradiquer les violences passe notamment par l'éducation et dans le système scolaire. Et Femmes Solidaires bénéficient d'ailleurs de l'agrément de l'éducation nationale depuis 2018 par rapport à ces actions dans le milieu scolaire.
Oui, ça vous permet d'intervenir dans des classes, y compris chez les plus jeunes, en fait.
Bien sûr, oui, oui. Et au moyen aussi d'expositions, de débats.
D'accord. Anne-Charlotte Dialti, vous vouliez compléter ?
Oui, je voulais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Nous aussi, hein, on mène des actions de prévention en direction des collégiens et lycéens dans le département. Évidemment, on n'est pas en mesure d'intervenir auprès de l'ensemble des classes du 92. Donc, pareil, il faut des moyens. Et il faut aussi des moyens pour former les professionnels, donc les profs, mais aussi les animateurs, animatrices des centres de loisirs, du périscolaire, des espaces jeunesse, pour que dans l'ensemble des pratiques professionnelles, il y ait, comme le disait l'intervenante précédente, une intégration dans les pratiques professionnelles de ces questions d'égalité, qui est une vraie culture de l'égalité, puisqu'on le sait que c'est les inégalités entre les femmes et les hommes qui sont le terreau des violences conjugales, et donc il faut dès le plus jeune âge, aller sur ce terrain-là et faire de la prévention pour que dans les couples adultes, il n'y ait plus de violence. D'ailleurs, je voudrais dire aussi que dans les établissements scolaires, il y a des violences sexistes, que dès le plus jeune âge, malheureusement, les petits garçons s'autorisent à être violents, à être sexistes, à mettre des mains aux fesses, à toucher le corps des petites filles. Du coup, on ancre comme ça ces représentations qui vont s'exprimer par des violences plus graves, notamment dans le cadre du couple, sans parler du harcèlement de rue et dans les transports. Je voulais aussi rajouter dans les préconisations, on a parlé beaucoup des enfants et des femmes, mais que l'autre facette de la même pièce et qui permet aussi de lutter contre les violences conjugales, c'est la prise en charge des auteurs de violences conjugales et qu'il faut absolument qu'on ait plus de moyens pour financer ces stages de responsabilisation qui ont été mis en place depuis 2014 dans la loi et qui fonctionnent dans le cadre de la lutte contre la récidive, mais qu'il faut aussi du soin, il faut des espaces de parole, parce que les violences, elles viennent aussi s'exprimer quand on n'a plus les mots. Et donc, il faut absolument qu'on puisse traiter de cette manière-là, mais sur du long terme. C'est... Du coup, ça coûte de l'argent.
Oui, ça demande du budget aussi.
Voilà. Mais si on veut être efficace, c'est aussi par la qualité des projets. Et parfois, ça demande du temps. Et le temps psychique n'est pas toujours le temps des financeurs.
Oui, au-delà des bracelets anti-rapprochement, une vraie prise en charge des auteurs. Lilian Andreu, pour le collectif Nous Toutes, vous, qu'est-ce que vous préconisez comme bonne pratique ?
Oui, du coup, pour rebondir sur ces questions de sensibilisation, c'est vrai qu'à Nous Toutes, il y a énormément de formations qui sont organisées, donc notamment depuis le confinement, qui sont organisées à distance, qui sont gratuites et libres.
N'importe qui peut s'inscrire.
Exactement, il suffit déjà de s'inscrire sur noustoutes.org. Et justement, ce sont des formations pour sensibiliser sur une éducation non sexiste, sur les pratiques, repérer les situations de violence, pas tellement sur l'éducation non sexiste, mais repérer les situations de violence, écouter et orienter les victimes. Et depuis la fin du confinement, on s'est beaucoup orienté sur la question de la culture du viol pour faire un peu émerger ce concept, comme on a essayé de faire émerger le concept de féminicide l'année dernière et qui s'est de plus en plus répandu et qui est beaucoup plus utilisé maintenant dans les médias, et faire émerger l'idée de culture du viol pour pouvoir mieux lutter contre.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en 3 phrases ce que c'est que la culture du viol ?
La culture du viol, en fait, c'est l'ensemble des comportements, attitudes et croyances partagées qui ont pour effet de minimiser, normaliser ou d'encourager les violences sexistes et sexuelles. On note par exemple, enfin à titre d'exemple, dans ces croyances, un certain nombre de stéréotypes sur le viol, par exemple, Alors, on les connaît tous et toutes, et on est assez informés, nous, ici, mais beaucoup de gens continuent à croire que le viol va être un acte isolé, qui va se passer un soir, la nuit, dans la rue, avec un couteau sous la gorge, que la fille aurait cherché éventuellement en mettant une jupe, enfin bon, des choses comme ça. Alors qu'en fait, on se rend compte, dans la réalité, que ce sont 9 femmes sur 10 connaissent l'agresseur, que 45% des viols sont des viols conjugaux. Donc, la question du viol, la réalité du viol, c'est qu'il est systémique. Ce n'est pas du tout un acte isolé. Il fait partie d'un continuum de violence. Et si on veut lutter contre les violences sexistes, il faut pouvoir vraiment montrer tout ce continuum de violence pour pouvoir lutter efficacement contre.
Alors, il y a une autre revendication de votre association, mais je pense aussi de nombreux mouvements féministes, c'est que le numéro de téléphone dédié aux violences conjugales, le 3919, soit ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qui veut répondre ?
Oui, oui, bah, ça faisait partie des demandes dans le plan d'urgence d'un accompagnement, enfin, oui, effectivement, d'une ouverture du numéro d'urgence parmi d'autres revendications dans ce plan d'urgence.
Ok, alors revenons à Nanterre plus précisément avec vous, Lorraine Janton, parce qu'il y a un projet qui a été proposé, qui faisait partie des argumentaires de campagne de la nouvelle équipe élue en mars dernier. C'est le projet de création d'une maison des femmes. Alors, en tant qu'adjointe au maire déléguée aux droits des femmes, c'est vous qui portez ce projet. D'abord, comment elle est née cette idée ?
Alors, cette idée, elle est née, elle n'est pas toute récente. Hein. Ce sont au départ les associations spécialisées comme le CIDFF et la FED qui l'ont proposé. Alors, Anne-Charlotte pourra me corriger, mais il y a plusieurs années déjà.
2017.
Voilà. Avec le souci, c'est la maison des femmes, donc le souci de créer un endroit dédié à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences sur la ville de Nanterre. Donc ça date de 2017. Ensuite, lors de la campagne des municipales 2020, nous avons organisé des ateliers citoyens avec différentes thématiques et notamment une thématique droit des femmes, puisqu'il y avait dans l'idée de créer une délégation droit des femmes, en tout cas de traiter ce sujet de manière très volontaire. Et à l'occasion d'un de ces ateliers, il y a eu un témoignage très, très bouleversant, très émouvant d'une nanterrienne victime de violences conjugales et qui expliquait qu'elle n'avait trouvé aucune issue à sa situation. Et donc, dans l'audience, une citoyenne s'est a fait la proposition de la création d'une maison des femmes pour répondre justement aux besoins des femmes victimes de violences sur Nanterre. Puisque tout à l'heure, on l'a rappelé, le parcours des femmes victimes de violences est un parcours de la combattante. Et ces femmes nécessitent d'avoir accès à différents services. Anne-Charlotte le disait tout à l'heure, hein, un service social, un service juridique, un service de santé. Et tous ces aspects-là qui sont déterminants pour la reconstruction de ces femmes, il est important qu'elles le retrouvent au sein même d'un lieu. Donc c'est l'idée de ce projet de Maison des Femmes. C'est un lieu d'accueil, d'accompagnement des femmes victimes de violences, mais pas que, également un lieu ressource des droits des femmes de manière générale. Et tout ce dont on parlait tout à l'heure sur la nécessité de la prévention, de la formation, de l'éducation à une éducation non sexiste, la lutte contre les stéréotypes, etc. Cette maison des femmes pourrait tout à fait accueillir des ateliers, des conférences pour sensibiliser les nantériens et les nantériennes sur ces thématiques-là. Y compris sur la thématique des violences faites aux enfants dont on a parlé dans les émissions précédentes et qui sont, comme on l'a dit, déterminantes pour lutter contre les violences conjugales. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de sécuriser les femmes victimes de violences tout au long de leur parcours pour qu'elles puissent sortir de ces violences. Et on compte, bien sûr, pour ce projet-là, travailler avec tout un tas d'acteurs du département, notamment le conseil départemental qui, on l'a rappelé, a beaucoup de moyens à sa disposition, mais aussi l'État. Et c'est un projet qui est vraiment multipartenarial et qu'il va falloir... qu'on est en train de monter de toutes pièces. Alors ça prendra un certain temps évidemment puisque on part de presque pas grand chose, mais on est extrêmement déterminés avec l'ensemble des services pour mener à bien ce projet qui, je pense, je l'espère en tout cas, puisqu'il est inédit dans le département des Hauts-de-Seine, va donner des idées peut-être à d'autres villes de notre département, et en tout cas va pouvoir insuffler, ouvrir la voie vers l'accompagnement et l'aide pour les femmes victimes de violences. Je voudrais dire un mot rapidement sur la formation, puisqu'on en a parlé, la prévention, la sensibilisation sur ces questions. La ville de Nanterre avait prévu pendant cette semaine du 23 au 29 novembre une journée, comme les années précédentes, une journée dédiée à la formation des agents municipaux, notamment les agents d'accueil, qui peuvent être parfois déterminants quant à l'accueil des femmes victimes de violences et du coup de la parole, c'est-à-dire comment on accueille une femme qui vient vous voir, comment on l'oriente, vers qui on l'oriente, etc. Une journée de formation a été prévue, malheureusement elle n'a pas pu se tenir au vu de la crise sanitaire, mais ça sera reporté très prochainement. Et on a aussi un dispositif que je souhaiterais mettre à la connaissance de nos auditeurs, auditrices. Ce sont les bons taxis de la ville de Nanterre. C'est un dispositif qui permet aux femmes victimes de violences qui ont déposé plainte au commissariat de pouvoir bénéficier d'un déplacement avec un taxi pour se rendre aux unités médico-judiciaires, aux UMJ, qui se situent à Garches et qui vont délivrer à la personne victime de violences l'attestation nécessaire pour pouvoir après poursuivre ces démarches. C'est un dispositif qui est peu connu, qui existe depuis à peu près un an à Nanterre et on a besoin comme ça de le porter à la connaissance de tous et toutes.
Donc si on a porté plainte au commissariat, qu'est-ce qu'on fait? Le commissariat vous délivre les bons taxis? C'est comme ça que ça se passe?
C'est le plaintier normalement, oui tout à fait. C'est le plaintier qui fait la proposition à la personne si elle ne peut pas se rendre, parce que voilà, ou si elle doit elle n'a pas les moyens de se rendre aux UMJ, de réserver un taxi. Et c'est gratuit donc évidemment pour les femmes qui en ont besoin.
D'accord, je reviens juste un instant sur la maison des femmes. On peut parier sur quel moment d'ouverture?
Alors, c'est la grande question. Il y a une véritable... ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une véritable attente, en tout cas un véritable intérêt de la part des Nanterriens, des Nanterriennes sur ce sujet et sur la... Il y a une vraie ambition qui est mise sur la question des droits des femmes. Donc très très réactive. On est en train de travailler. On a d'ailleurs commencé des visites d'autres maisons des femmes. Par exemple, la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est, elle, plus axée sur la santé, qui est adossée à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. Donc, on est pour l'instant dans la première étape de réflexion. On prend des idées un petit peu où elles existent. Les bonnes pratiques, les meilleures pratiques qui existent. Et on va construire avec les associations, avec l'ensemble des services, la maison des femmes à Nanterre qui correspond aux besoins. C'est ça la priorité, hein. C'est vraiment de répondre aux besoins des Nanterriennes, des femmes victimes de violences. Un dernier mot, si vous pouvez me permettre, vous avez parlé beaucoup d'argent, de budget, puisque effectivement c'est le nerf de la guerre. Pour la Maison des Femmes, ça va nécessiter évidemment un budget important. La ville a rappelé son engagement et va le tenir évidemment. Je voulais rappeler un chiffre important qu'on connaît peu, c'est le coût annuel des violences, puisque les violences qu'on fait aux femmes, elles ont un coût social. C'est 3,6 milliards d'euros. Alors même que les associations réclament 1 milliard d'euros, en réalité, investir pour en finir avec les violences faites aux femmes représente une économie pour notre société. C'est important de le rappeler parce que, comme vous le disiez, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc, si on veut vraiment être faire des économies et ne pas dépenser l'argent bêtement, ben, il faut investir dans les droits des femmes et dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Myriam et Saoudi, est-ce qu'un projet comme cette Maison des Femmes, elle pourrait voir le jour dans les pays du Sud ?
Bah, on l'espère, puisqu'en Tunisie, justement, je vous avais parlé de Baïti, c'est ma maison en français, et qui reçoit des femmes, justement. On l'avait créé au départ pour le confinement sanitaire, avant de passer au centre d'accueil. Mais il est en projet de pérenniser ce type de maison. Mais je crains que ça ne soit pas les mêmes budgets ni les mêmes approches, hein, parce que ce n'est pas encore une priorité dans des pays qui sont détruits économiquement, où il y a d'autres priorités de survie carrément, de mettre autant d'argent et de moyens dans les femmes. Et pourtant, les femmes, c'est la moitié de la société. Et dans les pays du Sud, elles souffrent énormément. En fait, on s'est rendu compte avec le temps que de la même façon que la crise a révélé un secteur sanitaire, les hôpitaux et tout ça qui sont complètement à l'abandon dans le Sud, soit parce qu'ils ont été détruits par les guerres, soit à cause des politiques de réforme qui appliquent l'austérité, donc l'abandon en quelque sorte du service public. On a aussi pris conscience au niveau des droits des femmes que la demande... enfin, la lutte juridique ne saurait être la seule réponse dans des sociétés qui sont travaillées au conservatisme, à l'extrémisme, qu'il soit d'ordre idéologique ou religieux. Il faut aussi d'autres approches, des approches sociales, des approches économiques. Il faut revoir certaines notions comme le mariage, parce que le mariage, il est basé sur un contrat d'intérêt. Et donc, ce qui le rend très vulnérable, c'est carrément revisiter les relations entre sexes pour rétablir l'amour, les choses qui sont complètement naturelles et qui, à cause du conservatisme de la société, n'est plus possible. On parle aussi, par exemple, d'injecter plus de mixité dans la société pour que les petits-enfants, ils commencent à s'habituer à le sexe opposé très, très jeune.
Plus de femmes dans les instances de pouvoir, c'est ça que vous voulez dire ?
C'est déjà le cas, mais vous ne pouvez pas changer les choses que par le sommet. Il y a toutes les ministres qui sont en charge des ministères des conditions de la femme, etc., sont des femmes aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont très, très actives et tout ça, mais ça ne suffit pas. Il y a toute une société derrière qui n'accepte pas encore le changement ou qui pense que les femmes, elles vont voler leur travail. Alors que quand on prend les statistiques en Algérie, 67% des diplômées sont des femmes, mais sur le marché du travail, elles sont moins de 17%. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est un taux qui fait très, très peur parce que finalement, elles n'ont pas accès déjà au travail. Alors, le poste de responsabilité, de temps en temps, on en met bien une ici et là, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il y a comme travail à faire, c'est au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation de la société. On a un vrai problème vis-à-vis des femmes parce que beaucoup pensent que la femme, elle va leur voler leur travail, que leur statut de privilège ou privilège d'homme va être menacé. Donc, tout ce qui concerne, chaque fois qu'il y a une lutte pour leurs droits, eh ben c'est vu avec beaucoup de méfiance, de défiance, de quelque chose comme vous voulez faire appliquer dans des sociétés conservatrices des modèles occidentaux, par exemple. Voilà, donc on est vraiment dans l'approche même de la question du droit des femmes est à revoir, est à retravailler. Il faut beaucoup plus de proximité avec la base, parce que nous, on parle, le féminisme, il est installé peut-être très bien dans certaines grandes villes dans le Nord, mais par exemple, vous descendez un peu plus dans le Sud, c'est plus pareil. c'est des femmes qui sont complètement abandonnées, qui sont sous un patriarcat dur. Et donc, le patriarcat signifie qu'il y a une domination. Et donc, très, très jeunes, les femmes sont habituées à servir les garçons et à subir les coups sans rien dire. Ça devient quelque chose qu'elles intériorisent et qui fait partie de leur éducation. Donc, le problème, il a des racines très, très profondes. On ne peut pas le changer comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond dans la société. Il faut aussi peut-être... il manque beaucoup aussi dans certains quartiers populaires et tout ça, des zones de loisirs où les gens peuvent se rencontrer et qu'ils soient gratuits, parce qu'on est quand même dans des sociétés quand même austères où ils sont complètement livrés à la télévision, aux écrans et surtout maintenant au numérique, les réseaux sociaux et tout ça. Et il n'en sort pas que des bonnes choses. Voilà, donc aussi on pourrait parler de renforcer par exemple toute la violence qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il y a une vraie violence, c'est un vrai problème, la stigmatisation des femmes. Et là, il n'y a aucune barrière. Voilà, donc il y a des choses, je pense, à faire en profondeur et puis réapprendre ce que c'est que la famille à certains qui sont complètement dogmatisés par des courants, que ce soit, c'est pas que les courants religieux, hein, parce que c'est un binôme avec aussi une société patriarcale traditionnelle et aussi des systèmes politiques corrompus qui ont tout intérêt finalement à ce que cet état de fait continue pour qu'ils puissent, eux, maîtriser la société en général.
Merci beaucoup, Myassam et Saoudi. Lorraine Zanton ?
Oui, je voulais réagir parce que je trouve très intéressant ce que vous dites sur les combats que mènent les femmes, notamment algériennes et des pays du Sud, et dans lesquels je m'y retrouve. En tout cas, j'ai envie d'y retrouver les luttes des femmes à l'international. C'est-à-dire que, évidemment, que les contextes sont différents. 17% sur le marché du travail en Algérie, ça n'a évidemment aucune... on ne peut pas comparer avec la France. Mais les combats pour la liberté, les combats pour le travail, pour l'autonomie financière, pour le respect et l'appropriation de son corps, tous ces combats-là, je les partage et je pense que dans tous les pays du monde... en tout cas, il n'y a pas un pays du monde qui est épargné par la nécessité de mener ces combats-là. Donc, je trouve votre intervention intéressante aussi pour l'ensemble des luttes féministes à l'international. Et ce qu'on fait à Nanterre, c'est un petit pas. C'est une petite pierre dans le combat mondial que nous sommes les femmes, accompagnées de certains hommes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, pas assez encore. On vous attend, messieurs, dans la lutte. Mais c'est un petit combat parmi le grand combat mondial qu'on est en train de mener, puisque les femmes sont en train de proposer clairement une autre société. Elles sont en train de proposer une révolution de la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est patriarcale, qui est capitaliste, qui assomme, qui exploite, etc. etc. Donc je voulais saluer cette intervention. Et pour finir, pour dire un mot, sans que ce soit le mot de la fin, je voulais quand même, puisque au cours des différentes émissions, on a quand même donné un ton, c'est vrai, parfois très noir, mais parce que la situation l'est. La situation est catastrophique pour de nombreuses femmes, pour de nombreux enfants victimes de violences. Je voudrais quand même donner à voir aussi la forêt qui se cache derrière l'arbre, qui est en train de pousser. Parce qu'on a une jeunesse, à mon avis, on l'a vu par exemple, nous, en France, l'année dernière, à l'occasion de la marche qui est organisée par nous toutes, notamment. Il y avait beaucoup de jeunes.
Monde.
Beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes garçons aussi. Pas assez, évidemment, mais quand même, il y en avait. Ils étaient là. C'était pas que féminin. Et donc, je voulais comme ça transmettre aussi un brin d'espoir, parce que cette jeunesse-là, je pense qu'elle elle ne veut pas de la vie que la société lui propose. Elle a autre chose à proposer, et une société plus égalitaire, plus libre, plus juste. Et je pense que ça doit nous donner un peu la force nécessaire et ne pas voir que le côté, malheureusement, qui existe, hein, mais le côté un peu sombre du constat des violences faites aux femmes et aux enfants.
Eh bien, merci pour ce mot de la fin qui apporte quand même un peu d'espoir. Et on en a besoin. Merci à vous six pour votre participation à ces trois émissions organisées, je le rappelle, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je rappelle les numéros d'urgence. Si vous êtes victime ou témoin de violence, vous pouvez appeler le 17 ou envoyer un SMS au 114, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi vous rendre au commissariat le plus proche. Et enfin, vous pouvez appeler le 39 19, disponible tous les jours de 9h à 21h. Et bientôt, on l'espère, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les numéros pour contacter les associations ainsi que les adresses des tchats sont sur le site de Radio Agora. Merci beaucoup et à bientôt.
Je peux redire un mot ?
Une dernière petite intervention de Lorraine Janton.
Je voulais juste rappeler que récemment, il y a un combat qui a été mené et qui était victorieux par les femmes polonaises pour le droit à l'avortement. Et je me suis rendue à Paris, il y avait un rassemblement pour les soutenir. Et j'étais impressionnée par la présence de jeunes femmes, évidemment, mais aussi de jeunes hommes qui soutenaient le combat pour l'IVG des femmes polonaises. Donc voilà, c'est pour donner aussi encore plus à voir le côté positif et encourageant des luttes féministes.
La société change. Merci.
C'était les violences conjugales à l'épreuve du confinement sur Radio Agora.